Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de Libre pour apprendre. Je suis Gypsy Nussbaum et aujourd'hui j'ai envie de parler du sujet de la liberté dans les écoles, aux apprentissages libres justement. Alors en route. Alors la liberté dans les écoles aux apprentissages libres. Souvent quand on en parle, il y a des gens que ça crispe, que ça dérange de se dire « mais les enfants sont libres, libres de choisir ce qu'ils vont faire ». Et en fait, ça va les mener à quoi? Ça va les mener à être dans quelque chose de l'ordre de l'enfant roi qui décide tout, qui veut faire ce qu'il veut et qui ne considère pas les autres et plutôt qui ne va rien faire et attendre que les autres fassent à sa place. Alors ce que je vis moi dans l'école où je suis, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que la liberté, je suis au bord de l'étang et je pense que vous entendez très certainement les oiseaux et les grillons. Donc je vous fais profiter du décor sonore en fait, de l'ambiance sonore. Donc pour cette liberté en fait, eh bien, les enfants, c'est pas du tout la liberté de tout faire. La liberté, ils apprennent dans ces écoles, en fait, ce qu'est la liberté. Et la liberté, elle implique, si on prend une des répliques qu'il y a dans Superman par rapport à son pouvoir, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, eh bien, je dirais que c'est la même chose au niveau de la liberté. Une grande liberté implique de grandes responsabilités. Et de pouvoir être libre de faire ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, eh bien, c'est aussi comprendre qu'on vit dans un groupe, dans une communauté, et que si chacun est libre, ça veut dire justement qu'il y a des contraintes, en fait. Les contraintes de l'autre, les contraintes du vivre ensemble, les contraintes aussi que je ne peux pas laisser mes affaires n'importe où parce que ben, les autres en auront besoin, ils auront besoin de les retrouver ou alors si c'est mes affaires personnelles, les autres n'ont pas besoin d'être encombrés dans l'école par mes affaires personnelles qui se trouvent à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et ça, c'est déjà un gros apprentissage pour beaucoup d'enfants de penser, d'avoir ce réflexe, cette construction en fait dans leur tête, de se rendre compte des choses, de se rendre compte de ce qu'ils font, de se rendre compte de leurs oublis, de leurs actions en fait, et des conséquences que ces actions ou ces non-actions auront vis-à-vis des autres, vis-à-vis du groupe, et du confort ou de l'inconfort dans lequel ils vont mettre le reste du groupe. Et ça, c'est déjà une chose très importante. Ensuite, il y a cette liberté de faire des choses. Si j'ai envie de jouer à quelque chose qui fait peut-être un peu du bruit ou de faire une activité danse ou du sport, eh bien, je vais pouvoir le faire dans quel cadre ou comment pour respecter encore la liberté de tous les autres. Et là, c'est tout un processus aussi, un questionnement de comment est-ce que je fais. Est-ce que, en fait, l'activité que je suis en train de vouloir mettre en place, est-ce que je peux la mettre en place maintenant sans que ça crée de problèmes ou de difficultés? Ou est-ce que je dois la proposer, par exemple, au groupe à travers une demande au conseil d'école, en fait, parce que j'aurai besoin d'utiliser un espace assez conséquent, j'aurai besoin d'un moment particulier où peut-être on peut faire un peu plus de bruit, ou voilà, de se poser ces questions, et puis de construire dans sa tête, est-ce que j'ai la possibilité de le faire là maintenant, ou est-ce que je dois passer par une demande au groupe ? Donc là, il y a déjà vraiment tout un processus, un processus mental de compréhension des conséquences de ces actes, aussi des besoins de l'autre, et de pouvoir répondre à mes besoins et aux besoins de l'autre. Il y a aussi, dans la plupart des écoles aux apprentissages libres, souvent ces écoles sont des écoles privées qui ont peu de moyens, Et comme au Japon, ça se fait partout, dans toutes les écoles, ce sont les enfants qui font le ménage. Et là, j'ai vu dans de nombreux lieux, en fait, des enfants qui effectivement rechignent. Et c'est aussi ce qu'on a vécu. Ils sont dans une espèce de justice inversée, où au lieu de regarder qui en fait le plus, qui va le plus contribuer à ce que l'école soit en ordre, que le ménage soit fait, ils vont plutôt se mettre à observer qui en fait le moins. Et puis prendre peut-être celui qui a le plus de difficultés, celui qui a un problème moteur ou qui n'arrive pas à bien faire les choses, manipuler les choses. Et puis se dire, mais je vais pas, si lui, il n'en fait pas plus que ça, ben moi, je vais pas en faire plus non plus, ce serait injuste pour moi. Et il y a tout un processus là à déconstruire pour beaucoup d'enfants. Et aussi le fait que les enfants disent, mais en fait, on paye pour venir ici. Donc si on paye, c'est inscrit il y a quelque chose de l'ordre social, en fait, qui veut que. Quand on paye quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de fournir un effort, qu'on doit être servi. Et en fait, on ne fait pas les choses qu'on n'a pas envie de faire. Et que c'est naturel, c'est normal de ne pas vouloir faire le ménage parce que c'est des besognes, des basses besognes. C'est encore parfois encore vu comme ça. Alors que c'est extrêmement important et c'est même une importance capitale de vivre, enfin pour moi je trouve, de vivre dans un environnement propre, agréable, rangé, accueillant, plutôt que quelque chose qui ressemble à une déchetterie. Donc là il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'inverser en fait ce mécanisme de justice inversée où on va observer celui qui en fait le moins pour aussi en faire le moins possible de mon côté et justifier que c'est normal parce que par égalité, en fait, je ne vais pas en faire plus que les autres. Et là, c'est intéressant de sortir de cette notion d'égalité qui, pour moi, à mon sens, est très fausse puisque, en fait, toute la nature montre que il n'y a pas d'égalité, il y a plutôt des écosystèmes où chacun a sa place, chacun a son rôle. Et dans l'humain, en fait, il y a aussi cette espèce d'écosystème où chacun a des compétences différentes, et heureusement, et des souhaits, des plaisirs, des choses différentes qu'ils aiment faire. Et heureusement, parce que si on aimait tous réparer les voitures et que personne ne s'intéresserait aux chiffres pour travailler dans des banques ou ailleurs, on aurait peut-être un souci au niveau de la société. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de casser en fait cette égalité qui a été longtemps aussi prônée pour les écoles, qu'il fallait l'égalité pour tous et puis que tout le monde devait faire les mêmes choses au même moment, au même rythme, etc. Donc revenir plutôt à quelque chose de l'ordre de l'équité. Écoute, toi, tu as des compétences, des capacités, tu es capable de prendre le balai et puis de comprendre tout de suite comment balayer et puis de le faire bien et puis d'aller dans les coins et puis de te faire que la salle soit vraiment propre. Un plus petit aura plus de difficultés, il va pas penser à aller derrière un peu la chaise ou bien il aurait besoin d'être plus accompagné, plus soutenu. Puis toi, tu pourrais même l'aider à faire ça puisque toi, tu maîtrises les choses. Et ça, c'est plus de l'ordre de l'égalité. Effectivement, tu vas faire ton ménage et tu vas peut-être aider encore un plus petit à faire le sien parce qu'il aura plus de mal. Mais là, on est dans l'équité. Et vraiment, cette équité, c'est cette image qu'on peut trouver aussi si on cherche sur Internet. En fait, on peut sur Internet, il y a une image vraiment très intéressante, je trouve, où on veut l'égalité et on donne la même quantité de nourriture au chien, à l'éléphant et à la souris. Autant dire que l'éléphant va mourir dans pas longtemps parce que il aura très faim et la souris va mourir dans pas longtemps parce qu'elle aura un estomac qui va exploser. Donc, vraiment d'arriver à faire comprendre, à amener l'enfant à réaliser, à prendre conscience qu'en fait, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de l'égalité. Quand on vit en groupe, on est vraiment dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'équité. Et que d'être libre, c'est aussi de pouvoir réaliser ça et de pouvoir vivre à l'intérieur d'un environnement agréable, ça donne aussi plus de liberté à chacun de pouvoir se sentir bien, parce que c'est étouffant si on n'est pas dans quelque chose de propre et d'agréable. Et puis on se sent plus petit, plus restreint aussi dans nos libertés, probablement peut-être pas dans les libertés exactement, mais en tout cas dans notre environnement, c'est moins agréable et ça ouvre moins l'esprit, moins à moins de choses, plus agréable à vivre. Et vraiment, la liberté, en fait, c'est souvent, ça fait écho comme anarchie, comme du grand n'importe quoi quand on parle de liberté pour des enfants. Mais c'est pas du tout ce vers quoi il souhaitait d'aller en fait en étant libre dans des écoles qui amènent la liberté des apprentissages. Alors les enfants sont libres de choisir ce qu'ils veulent apprendre, mais par contre ils ne sont pas libres de vivre tout ce qu'ils veulent comme ils veulent et tout ce qu'ils veulent et comme ils veulent et de la manière dont ils le souhaitent. Ils doivent tenir compte de l'environnement dans lequel ils sont. Et ça, c'est vraiment un apprentissage très important, voire même un apprentissage essentiel. Et moi, j'aime bien cette idée. Il y a cette phrase qui dit que ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Moi, je trouve que dans une école libre et qui prône l'autonomie, en fait, de l'enfant, c'est important de même passer à une étape supérieure et d'arriver à faire que ma liberté commence ou commence celle de l'autre. Et avant même de faire quelque chose, je me pose la question des conséquences que ça va avoir pour les autres. J'ai pas besoin d'attendre quand j'ai envie de faire quelque chose, je ne vais pas le faire en attendant que l'autre commence à me dire que c'est pas OK pour lui et puis que ça lui pose un problème. C'est intéressant d'amener l'enfant à anticiper et peut-être qu'il n'est pas sûr, peut-être que ça, il imagine que ça peut poser problème, mais peut-être pas, et d'aller juste confirmer sa pensée, est-ce que là, si je fais ça, ça va vous déranger ou pas? Plutôt que de commencer et d'attendre et déranger tout le monde, et peut-être que y a souvent des plus petits aussi ou d'autres qui viennent d'arriver parce que ça bouge aussi à l'intérieur de ces écoles. Et si on attend toujours que l'autre vienne nous dire, c'est aussi désagréable parce que ça met. Bon, c'est intéressant au niveau de l'apprentissage de celui qui est mis en difficulté d'apprendre à s'affirmer et puis à dire aussi, là je ne suis pas d'accord. Mais par contre, si toute la journée on est face à des enfants qui font des choses puis qu'attendent que les autres viennent dire là c'est n'importe quoi et puis qu'il faut renégocier et que ça crée des conflits en permanence, c'est pas agréable à vivre. C'est beaucoup plus intéressant si l'enfant, avant de se mettre en action sur quelque chose ou avant de ne rien faire aussi, se pose la question des conséquences que ça aura pour les autres, pour le groupe, pour l'autre qui est là, et s'interroge et soit adapte, soit pose la question de voir si effectivement ce qu'il a imaginé qu'il pouvait être dérangeant ou ne pas répondre aux besoins de l'autre, et eh bien si effectivement, s'il pose la question, si ça lui est confirmé ou pas. Par exemple, les enfants, il y a des jeunes là qui aiment bien jouer du piano, ils ont très vite constaté qu'en fait il fallait aller demander aux autres au moment où ils voulaient jouer du piano dans la grande salle si ça les dérangeait ou pas, parce que c'est tellement bruyant. Ça peut déranger effectivement beaucoup ou quand ils mettent de la musique pour faire la danse, voilà. Et c'est vraiment d'arriver à ce mécanisme de ma liberté commence ou commence celle de l'autre et je prends conscience de qu'est-ce qui permet aux autres, quand je fais quelque chose, de rester libre et d'avoir toujours eux la possibilité d'être dans un environnement agréable. Voilà pour cette liberté dont j'avais envie de vous parler et qui en fait est bien loin d'être quelque chose de totalement de l'ordre de l'enfant roi, mais est quelque chose d'extrêmement contraignant avec un questionnement permanent justement pour chaque chose que l'on va mettre en place, de se dire, ok, si je fais ça ici dans ce lieu, qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment engageant et challengeant de nouveau pour des enfants qui choisissent d'être dans des écoles avec les apprentissages libres. Alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve sur un prochain podcast. À bientôt.